Chapitre 12. Rudal, avec une habileté qui n'était pas bien nécessaire, l'amour de Brigitte étant un merveilleux auxiliaire, détruisit les dernières résistances. Sa cause était gagnée, pensait-il, s'il la décidait à partir. Assurément, il aimait, mais il calculait également que M. d'Épinay, quel que fût l'événement, ne laisserait pas sa fille dans la misère. Il savait, en outre, qu'un petit héritage, fait par Mme d'Épinay peu d'années après son mariage, assurerait à Brigitte une indépendance dont il comptait profiter. Il s'exagérait les proportions d'une fortune modeste et, ainsi que beaucoup d'hommes habitués à l'économie, possédait des notions assez inexactes sur la valeur relative ou absolue de certains revenus. Toutefois, si le calcul entrait pour une part dans ses plans, l'amour dominait dans son âme sans scrupule. Sur ce point, la sincérité, à laquelle Brigitte ne devait pas résister, était réelle. Un fait, insignifiant en d'autres circonstances, précipita le dénouement. On répondit négativement de Nantes à la demande de Brigitte et M. d'Épinay, de nouveau réveillé par cet incident, insista pour que sa fille allât chez Mme Taillandry. « Écris-lui et annonce ton arrivée pour jeudi, où j'écris moi-même. Tu iras avec le métayer ou, si tu préfères, par le petit train qui te conduit tout près des petites buardières. » Elle voulut discuter, insister, mais il se remit à écrire en disant d'un ton impatient « Mon parti est pris, n'insiste pas. Me suis-je donc complètement trompé sur toi, si raisonnable et si heureuse à Noirpin, avant cette sotte histoire ?» La réponse exaspéra Brigitte et lui rappela avec trop de vivacité combien elle avait souffert d'une méconnaissance absolue de ses goûts, de ses désirs, de ses besoins intellectuels et affectifs. Elle admira le jugement de Laurent qui lui répétait, la veille encore, que la force d'inertie était plus difficile à vaincre qu'une résistance énergique. Dès lors, pressée par la nécessité de se décider rapidement, elle résolut, sur les conseils insidieux qui ne lui étaient pas épargnés, de mettre à profit son départ présumé pour la métairie de sa cousine. Malheureusement, elle n'avait à rencontrer aucun obstacle matériel. Le train choisi correspondait, à quelques stations plus loin, avec un express de Paris. Elle devait rejoindre Rudal au point de jonction et il lui était facile, sans paraître extraordinaire à la gare la plus voisine, de prendre un billet pour l'endroit du rendez-vous. La veille, Laurent partit pour N, sous le prétexte de recherches à faire dans la bibliothèque de la ville. M. d'Épinay eut l'idée vague que le départ de Brigitte contrariant Rudal, il désirait n'y point assister, et il accorda le congé demandé en attribuant à son secrétaire, en cette circonstance, une grande délicatesse de sentiment. La seule crainte de Rudal était que Brigitte, livrée à elle-même, ne revînt sur sa détermination. « Ne m'abandonnerez-vous pas ?» lui dit-il anxieusement, quelques instants avant son propre départ. « Non, soyez sans crainte, je suis très résolue. » Afin de hâter sa décision, en calmant certains scrupules, il lui avait dit qu'une parente à lui, supérieure d'une maison religieuse, la recevrait à Londres, en attendant que les courtes formalités nécessaires fussent remplies pour leur mariage. « Oh, s'il en est ainsi, tout est bien simplifié » s'était-elle écriée avec joie. « Vous ne connaissez personne qui puisse préparer le chemin avant notre arrivée ?»« Nous serons bien vite à Londres désormais. » « Cependant, je vais écrire à un ami si vous le désirez. »« Oui, oui, faites-le. Il faut gagner du temps et nous marier le samedi si c'est possible. » Brigitte écrivit à la religieuse afin d'annoncer elle-même son arrivée en la priant de lui envoyer un télégramme à Paris où elle devait être le surlendemain matin. Rudal se chargea d'expédier la lettre. La surexcitation qui soutenait Brigitte dans son parti pris d'agir ne l'abandonna point après le départ de Laurent. Mais, quoique surexcitée, elle fit ses préparatifs comme si elle agissait en rêve et fut sur le point d'oublier la chose principale, c'est-à-dire une réserve d'argent assez importante. « L'oubli n'eût pas été bien grave, pensa-t-elle, puisque je reviendrai tout de suite auprès de mon père. » Leurs adieux furent froids, bien que, s'il eût dit un mot, elle se fût jetée dans ses bras en disant « Aimez-moi et faites vous-même mon bonheur. » Mais le pauvre homme, manifestement enchanté de reprendre sans souci ses chers travaux, l'embrassa légèrement. « Marie t'accompagne ?»« C'est inutile. On a porté, il y a une heure, mes bagages à la gare et j'irai seule à la station. Je l'ai fait bien des fois. » « Oui, mais dans le train. Il est vrai que tu as l'habitude de ces petites excursions. Mais tu aurais mieux fait, je crois, d'emmener Marie. » Brigitte ne répondit pas et s'éloigna, le cœur en même temps triste, irrité, mais plus ferme dans sa résolution. Il eût suffi d'une parole affectueuse pour la retenir. L'attitude de M. Desponnets, au contraire, la poussait en avant. Elle fit enregistrer sa malle pour la station indiquée par Laurent. Le chef de gare, qui avait causé avec les domestiques, lui dit « Ah, vous préférez descendre là? C'est un peu plus loin des petites Buardières, mais la route est plus belle pour vous envoyer chercher. Un bon moment pour se promener, la grande chaleur a disparu. » « Oui, répondit-elle laconiquement. Il eut un regard étonné, car elle avait l'habitude de se prêter à son bavardage et de s'informer avec intérêt de ses nombreux enfants. « Êtes-vous malade, mademoiselle Brigitte ? » demanda-t-il. « Oh non, un peu fatiguée seulement. Un déplacement vous fera du bien. » Et il s'en alla fermer ses barrières en se disant que, si les bruits publics avaient raison, il savait quel serait le meilleur remède à la fatigue de la jeune fille. Ce petit incident sortit Brigitte de la vague somnolence dans laquelle il lui semblait se mouvoir. Envahie, tout à coup, par le doute et l'inquiétude, elle pensa « Il est encore temps de reculer. Je puis ne pas prendre l'express. Pourquoi pas? Je trouverai un moyen d'arriver à la métairie et j'avouerai tout à ma cousine. » Mais la vue de Laurent, qui l'attendait à la station, la rejeta dans une hésitation qui ne pouvait être longue, l'express arrivant quelques minutes après elle. Au premier mot qu'elle prononça, Rudal, en lui parlant avec affection et autorité, changea ses impressions et le train l'emportait déjà vers Paris quand elle retomba dans son indécision. « Mon Dieu, qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait ? » dit-elle avec angoisse. Elle s'était réfugiée à l'extrémité d'un couloir, les compartiments étant encombrés de voyageurs. « Vous avez agi comme il était sage d'agir, » répondit Rudal avec fermeté. « Vous ne pouviez condamner, ni moi, ni vous, à une existence malheureuse. » « Nous serons mariés après-demain, n'est-ce pas? Les formalités auront été remplies par votre ami quand nous arriverons. » « Ne vous inquiétez de rien, tout sera bien. Vous avez écrit à votre père ?»« J'ai la lettre, mais elle n'est pas fermée. Ne sachant si je serai encore au couvent quand sa réponse m'arrivera, je n'ai pas indiqué d'adresse. » « Indiquez simplement la poste restante d'un quartier de Londres. » Et il lui donna une adresse exacte qu'elle ajouta au crayon sur sa lettre en disant « Nous la mettrons à la poste en arrivant à Paris. » Un sentiment vif et amer de sa position fausse, une vue plus nette du mal qu'il y avait à s'enfuir de chez elle, même dans un dessein louable, l'oppressait d'un malaise extrême. « Je ne suis donc pas faite pour les situations anormales, » se disait-elle, se rappelant les aventures imaginaires dans lesquelles elle encadrait sa vie et la bonne opinion qu'elle avait de sa force pour mener à bien ses aventures. Vaine rêverie qui s'évanouissait devant le fait réel et devant la certitude que les convenances nous tiennent comme des lois excellentes qu'on ne brave pas sans souffrir. Elle apercevait avec surprise la mainmise sur nous de ces saines convenances, car dans ce moment de crise décisive, ce n'était pas son amour qui l'absorbait, mais la pensée cuisante d'être en dehors des lois habituelles de la société. La présence de nombreux voyageurs ne leur permettait qu'un échange de paroles banales. Cependant, quand elle s'assit avec un soupir de fatigue, après s'être longtemps promenée dans les couloirs, Laurent lui dit tout bas tendrement « Vous souffrez ? Que je voudrais être arrivée et mariée !» répondit-elle. Puis elle ferma les yeux et les heures passèrent dans un demi-sommeil dont elle sortait pour regarder la nuit sereine. Peu à peu, elle reprit courage en se remémorant les raisons qui avaient déterminé sa décision. « Moment pénible à passer, se dit-elle. Mais le dénouement sera d'autant plus heureux que mon père s'en montrera un jour satisfait. Il n'aura plus à s'occuper de mon avenir et sa vie tranquille ne sera troublée par aucun ennui. » Ainsi que nous tous, dans les cas douteux, graves ou non, elle essayait de se convaincre elle-même en s'appuyant sur les motifs d'agir qui lui semblaient justes et couvrait le côté répréhensible de sa conduite. En arrivant à Paris, elle fut distraite par la nécessité de déjeuner et de passer d'une gare à une autre. Mais aucun télégramme ne l'attendait et, désappointée, elle dit à Laurent « Je ferai mieux alors d'attendre ici que vous ayez tout organisé à Londres. » « Pourquoi donc? Que deviendriez-vous seul? Continuons au contraire. En arrivant, je ferai le nécessaire. » Il ne se départait pas avec elle d'une attention discrète qui, ressemblant à la protection d'un homme bien élevé rencontré en voyage, la laissait parfaitement libre. Elle ne résista pas et jeta à la poste sa lettre pour Noirpin. Un nouveau pas étant ainsi franchi, elle partit pour Londres à 8h45. Mais grave était son erreur de compter sur une approbation tacite ou relative de M. Desponnets. Tranquille sur le sort de sa fille, mais contrarié que Laurent prolongeât son congé, il se disposait à lui écrire dans l'hôtel où il le croyait descendu à N quand on lui remit la lettre de Brigitte. En termes doux et respectueux, la jeune fille faisait appel à toute l'affection de son père pour qu'il pardonnât un parti trop extrême. « Je serai mariée samedi vraisemblablement et vous éviterez ainsi les tracas d'une lutte que vous ne vouliez pas soutenir et à laquelle je ne pourrai renoncer puisque j'aime Laurent et en suis aimée. Si vous croyez avoir à pardonner, dites que vous pardonnez et bientôt nous serons auprès de vous pour vous entourer d'une double affection et vous donner la paix studieuse qui est, avant tout, votre vie. » Si les spéculatifs n'ont souvent aucun sens de la réalité, le jour où cette réalité vient les heurter, ils n'observent aucune nuance et aucune mesure. Après les premiers moments d'une stupéfaction sans borne, M. Desponnets, ne voyant que le scandale qui jetait un ridicule sur lui et compromettait la réputation de son nom, s'abandonna à la plus véhémente colère. Sans plus réfléchir, dans le premier mouvement, il écrivit à Brigitte une lettre insultante, bien faite pour rompre tout lien entre eux. Un homme de journée reçut l'ordre de monter à bicyclette et de courir au bourg voisin afin que la lettre partît le jour même. Cet acte malheureux accompli, après avoir crié sa fureur dans toute la maison, M. Desponnets envoya chercher son métayer et partit en carriole pour les petites buardières. Quand elle le vit arriver seul, dans un état de surexcitation, en désaccord avec toutes ses habitudes, Mme Taillanderie perdit elle-même un instant son sang-froid. « Mon Dieu, qu'avez-vous ? Brigitte ! Eh bien, pourquoi ne l'avez-vous pas amenée ?» Mais il la regardait sans ajouter un mot. « Parlez, voyons ! » s'écria-t-elle avec impatience. « Brigitte est-elle malade, blessée ? Elle est partie avec Rudal pour se marier en Angleterre. Hein ? Comment y croire ? Comprend-on cela avec ce visage doux et tranquille ? « Partie, ma fille, pour forcer ma volonté et se marier malgré moi. » Madame Taillanderie, au lieu de prendre un air tragique, comme s'y attendait son cousin, eut d'abord un sourire narquois, puis se mit à rire franchement. « Comment, vous riez ? Ma foi, mon cher, c'est drôle. Et cette eau dormante paisible qui était, selon vous, l'image de votre fille ?»« Eau dormante ! » s'écria-t-il d'un ton furieux. « Ne connaissiez-vous pas l'air tranquille et sérieux de ma fille ?»« Oui, et vous auriez bien dû méditer le dicton, défiez-vous de l'eau qui dort, laquelle d'ailleurs ne dormait pas, je vous l'avais assez dit. Maintenant, il faut aviser au meilleur moyen de tout arranger. Que comptez-vous faire ?»« Ah, j'ai déjà écrit à Brigitte tous les reproches qu'elle mérite. Je m'en tiendrai là, je ne veux pas la revoir. » « Vous avez eu tort d'écrire sous la première inspiration de votre colère. Pourquoi agir si vite? Votre lettre, si elle est trop vive, peut faire beaucoup de mal bien inutilement. Écrivez-lui de rentrer le plus tôt possible au bercail afin de régulariser en France leur mariage anglais. » C'est ainsi que vous prenez les choses, dit M. Desponnet, qui passait des tempêtes de son emportement à la plus simple réalité. Et comment voulez-vous que je les prenne? L'acte de Brigitte est coupable, mais on n'y peut rien, si ce n'est en adoucir la portée en l'acceptant de bonne grâce. Quand les facultés sont surexcitées par des événements qui les touchent ou vivement ou profondément, le contact, avec des points de vue différents et le sang-froid des autres, blesse ou déroute. Un esprit sage peut puiser dans cette impression pénible une leçon précieuse, mais dans les circonstances pratiques de la vie, M. Desponnet était le contraire d'un esprit sage. « Nous ne pouvons pas nous entendre, » dit-il avec dépit. « Je vois dans cette aventure le déshonneur de ma fille et vous, un fait qui touche au comique. »« Déshonneur ! Allons donc ! Ne vous montez pas la tête, mon cher, et tâchez dans votre déconvenue, grande, j'en conviens, de vous montrer raisonnable. » En vérité, je me demande pourquoi je suis venu ici, dit-il en enfonçant son chapeau sur sa tête. Et il partit sans écouter aucun raisonnement. Dès le lendemain, il reçut un émissaire de Madame Taillanderie, porteur du billet suivant. Dans l'intérêt de Brigitte, je vous envoie des excuses. Remettez son adresse à mon domestique. Je veux écrire à cette petite sotte qu'elle peut venir chez moi avec son mari, en attendant la fin de votre folie. » Mais M. Desponnet, cédant encore à son humeur, renvoya le domestique en déclarant qu'il n'y avait aucune réponse. Cependant, le lendemain, après avoir lu un peu calmé la lettre de sa fille, il envoya à sa cousine l'adresse de la poste restante désignée par Brigitte. Madame Taillanderie écrivit aussitôt une lettre de sa façon qui devait arriver trop tard. Elle avait paru accepter l'événement avec facilité afin de calmer M. Desponnet, mais tout de suite, elle avait pensé à Duras. Pourvu, se répétait-elle, qu'il ne découvre rien de fâcheux et que cette malheureuse enfant n'ait pas donné sa vie à un indigne.